Chapitre 20. 30 octobre 2010. Monter dans le train Gare de Lyon. Descendre au Creusot TGV. Un seul tour de clé, la Méhari démarre. Quand Colette est décédée en 2007, j'étais sûre de ne revenir à Guignon que pour me recueillir sur sa tombe. Je pensais que je ne ferais plus beaucoup de Los Angeles-Bourgogne. J'ignorais qu'elle voudrait reposer près de mes parents et non près du stade Jean Laville, qu'on voit très bien depuis le cimetière. Des allers-retours de temps en temps qui s'étioleraient avec les années. Quand elle est décédée en 2007, j'étais sûre de finir ma vie avec le père de ma fille aux États-Unis. Qu'on continuerait à faire des films ensemble jusqu'à nos vieux jours. On rêvait d'Italie aussi, de s'installer du côté de Naples. Nos jours n'ont pas eu le temps de vieillir. On a vendu la jolie maison avec piscine et les bougainvilliers qui allaient avec. Je me suis réinstallée dans un appartement à Paris et me voilà devant le cabinet médical de la rue Danton pour toucher deux mots au docteur Pierry. La valise de Colette et la mienne sur le siège arrière est limée. Avant de descendre, je réécoute le message d'Anna, juste pour entendre sa voix.
« Mamoun, je suis bien arrivée, c'est le rêve trop trop beau, je t'aime. »
C'est étrange. Quand Anna est chez son père, elle déjeune et dîne avec eux. Respire le même air qu'eux. Mais la savoir en vacances avec l'autre me ronge le cerveau. L'idée qu'elle trempe son cul dans l'océan Indien, ma fille à ses côtés me ravage. En entrant dans le cabinet médical, pas le temps d'être accueillie par la secrétaire Revêche, je tombe nez à nez avec le capitaine Rampin.
« Bonjour Madame Duguin, vous allez bien ?»«
Je viens parler au docteur Pierry, c'est lui qui a signé le certificat de décès de ma tante il y a 3 ans. »«
Sa secrétaire m'a prévenu. » Vous ne pouvez pas instruire à ma place.
Mais
l'enquête est en cours. Je vous raccompagne rue des Fredins.
Non, merci, j'ai pas le droit de parler au toubib.
Il est préférable d'attendre.
Il m'entraîne vers la sortie et ressort à mes côtés.
Je vous attends devant la maison pour vous remettre les clés.
Il s'assure que je monte dans ma voiture et démarre son véhicule pour me suivre. Les flics derrière moi comme si j'étais recherchée. Je ne peux retenir un éclat de rire malgré la situation.
J'aimerais bien être recherché. Au moins, ça voudrait dire que quelqu'un s'intéresse à moi.
Je traverse les rues désertes. Je pense à Louis Berthéol, qui est apparu sur mon canapé et a disparu aussitôt. À la valise de Colette, posée dans l'entrée. Depuis, il est sur messagerie. Il nous avait prévenu, Cornelia et moi, qu'il partait quelques jours en voyage. Quand je lui ai demandé comment ma tante avait pu vivre pendant 3 ans, avec quel argent, il m'a répondu que son bas de laine n'était pas une légende, et qu'à partir de 2002, elle avait changé environ 10 000 francs par mois contre des euros, et ce pendant un peu plus d'un an. Le banquier de la rue de la Liberté, qui l'aimait beaucoup, avait fermé les yeux. Elle faisait aussi des travaux pour un magasin de couture. Ça l'occupait, elle aimait ça, se sentir utile.
Colette, elle a connu le travail toute sa vie.
Elle confectionnait des rideaux, et effectuait toutes sortes de retouches. C'est Louis qui allait chercher les vêtements, les tissus, les mesures et les patrons dans un atelier situé à la sortie de la ville, qui les apportait à Colette dans sa cachette et les rapportait au magasin lorsque le travail était terminé. Tout était réglé en espèces. Personne ne posait de questions. Les finitions étaient impeccables. C'est fou comme sa disparition avait été organisée. Elle aurait pu vivre encore longtemps sans que personne ne sache à part Louis. Je me demande s'il lui arrivait de sortir, d'aller marcher, de se rendre au cimetière. Je me gare devant la cachette. Il me semble que les arbres autour de la propriété ont encore poussé. La voisine d'en face soulève un rideau et me fait un signe de la main. Il faudra que j'aille la voir. Le capitaine Rampin me dit qu'ils ont fait le tour du quartier, que personne ne savait que Madame Septembre vivait ici. Même pas la dame d'en face ?
Elle a emménagé récemment, et il lui aurait fallu une grue pour voir ce qui se passait à l'intérieur.
Cyril Rampin me remet un double des clés.
Pour le portail et pour la porte d'entrée. La petite clé, c'est pour la cabane du jardin.
Je n'avais pas remarqué la dernière fois, mais il n'y a pas de boîte aux lettres ici.
Aucune. Nous n'avons retrouvé ni courrier, ni prospectus.
Ne pas avoir de boîte aux lettres, c'est ne pas exister. Un silence s'invite quelques secondes.
S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas à m'appeler.
Je déteste son ton paternaliste.
Je le congédie et referme la lourde porte derrière moi. Au moment où je tourne la clé, que la maison exhale une odeur de renfermé, de froid et de javel, je ne comprends pas ce que je fais là. C'est une mauvaise idée de dormir ici, dans la maison d'une morte. Il aurait été plus judicieux de réserver une chambre aux monges et de venir la journée. J'aurais sans doute mieux fait d'écouter les cassettes chez moi, à Paris, avec Cornelia dans les parages. Je ne prends que des mauvaises décisions. Ma fille nage avec les dauphins, son père tartine l'autre de crème solaire, et moi je vais passer la semaine dans un pavillon sordide. Il faut que je cesse de pleurer sur mon sort, que j'arrête de me dénigrer. Il faut que je convoque la force joyeuse qui m'animait autrefois. Cette joie qui m'a habité si longtemps. Cette colère qui me faisait jurer comme un charretier, je dois la retrouver elle aussi. Remue-toi, bordel, Agnès, remue-toi. Je ne peux pas avoir tout perdu. Ce qui était en moi doit sans doute l'être encore. C'est comme mes yeux, mes mains, ma bouche, mon ventre. Rien n'a changé, je ne peux pas être vide. Il faut que je mette de la musique. Que j'ouvre les fenêtres, que je passe tout à la machine. Que je récure le carrelage, que je parle à ma tante, à voix haute, avant d'écouter la sienne sur les cassettes. J'ai l'étrange sensation d'avoir débarqué dans une location de vacances décevante. À quoi pouvais-je bien m'attendre en m'installant ici? Allez, une fois aérée, la maison ne sera plus très loin de la mer. Je file à la supérette acheter des produits ménagers que j'ai l'habitude d'utiliser. Du vin, du jus d'abricot, de l'eau gazeuse, du riz, du maïs, 3 tomates, du vinaigre balsamique, un paquet de chips et des bougies. En revenant, je trouve une casserole de soupe de légumes sur le paillasson. Avec ce mot, de la part de la voisine du 21, griffonné sur un bout de papier. C'est la dame que j'ai vue tout à l'heure. Et si elle était empoisonnée? N'importe quoi, j'irai remercier plus tard. Je fais 2 heures de ménage dans une maison qui n'était pas sale, mais qui pourtant paraît reprendre des couleurs. Je sors de ma valise mon matelas gonflable, un vieux truc qui remonte au déluge. Pierre et moi l'avions à l'arrière de la voiture et nous le gonflions lorsqu'on s'arrêtait quelque part dans la nature pour passer la nuit ou faire une sieste. Nous avons tellement fait l'amour là-dessus. Mais je n'ai pas envie de penser à ça. J'ai envie de penser à maintenant. Éventuellement à plus tard, mais pas trop. Déjà, penser à maintenant, c'est pas si mal. Je coince le matelas entre la télévision et le canapé. Je vais dormir là, dans le minuscule salon. J'ai lavé des draps qui sèchent. Ceux qui étaient dans le lit, je les ai jetés. Et je donnerai les 2 oreillers et les couvertures au refuge de Guignon. J'ouvre la valise de Colette, que j'ai posée sur le sol dans le couloir. Je découvre mon magnétophone noir à cassette. Le bouton poussoir rouge pour enregistrer. Ceux de la lecture, embobinage, rembobinage, gauche-droite. C'est papa et maman qui me l'avaient offert. Noël 85. Comme la maison de Colette était trop petite, nous allions dîner tous les 4 chez Georges Vezan. Et quand nous rentrions, nous découvrions nos cadeaux dans la cuisine. Aucun souvenir de sapin, ni de décoration de Noël. Juste une guirlande de lumière autour de la vitrine de la cordonnerie qui clignotait 1 fois sur 10 comme par inadvertance. Quand j'avais découvert mon magnétophone auto-reverse Dernier Cri, j'avais poussé des hurlements de joie. Nous avions passé la soirée à enregistrer nos voix. Colette avait beaucoup ri ce soir-là, n'en revenant pas de pouvoir s'écouter. Elle n'avait cessé de dire à mon père « J'ai une drôle de voix, Jean, tu trouves pas ?» À côté de mon magnétophone, des cassettes audio, toutes rangées dans leur boîte transparente et numérotées à l'encre bleue, de 1 à 119, sans commentaire ni nom. Je ferme les yeux. Je ne veux pas choisir par laquelle commencer. Je les mélange, j'en garde une dans les mains. J'ouvre les yeux. Le hasard a retenu la 19. Je la sors de sa boîte, la glisse dans le magnétophone. Puis sa voix, légère, les mots débités doucement, entrecoupés de silence, de respiration.